franceinter.com.
Alessandra Sublet.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Bonjour Pierre Rabhi.
Bonjour.
Je hais les dimanches, et vous ?
Ben, je les ai haïs, surtout quand j'étais dans la cité d'Oran en Algérie, qu'on était complètement désœuvrés à ne pas savoir que faire de notre peau pendant toute la journée. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où je redoutais le dimanche.
On va en parler, Pierre Rabhi. Je hais les dimanches vous fait découvrir des événements ou des personnalités qui marqueront l'actualité de la semaine prochaine. Et pour commencer, eh bien, Thierry Frémont nous parlera de Pablo Picasso, qu'il incarnera très bientôt pour la chaîne France 2 dans un téléfilm intitulé « La femme qui pleure au chapeau rouge ». Et puis, Jacques Pessis, journaliste, écrivain, reviendra sur les 10 ans de la disparition de Charles Trenet, lui qui l'a fréquenté. Bref, je hais les dimanches, c'est aussi parler de tout avant tout le monde.
Je vais les dimanches sur France Inter.
Ne trouvez-vous pas qu'il est apaisant d'avoir autour de nous des hommes porteurs d'espoir ? Ne trouvez-vous pas qu'il est rassurant de savoir qu'il y a, parmi nous, des hommes capables de trouver assez d'énergie pour drainer des foules et faire passer un message positif quant à notre futur sur cette magnifique terre ? Mais si je vous dis maintenant que la seule façon de faire avancer ce porteur d'espoir, c'est d'accepter certaines contraintes. Par exemple, êtes-vous prêt à vous asseoir sur un certain confort, parfois si bon ? Faire preuve de moins d'égocentrie, s'ouvrir, regarder vers l'autre, tendre la main, revenir à des valeurs plus simples, plus modestes. Et surtout, être capable de faire un constat simple, ce porteur d'espoir a peut-être besoin de vous. Alors, seriez-vous prêt à le suivre ? Eh bien, mon invité est ce messager d'espoir. Et je préfère vous prévenir d'emblée que cette émission portera votre conscience peut-être au-delà de votre dimanche confortable. Mon invité va peut-être bouleverser un tout petit quelque chose en vous. Et si ça marche, même un tout petit peu, je vous promets que je serai très fière d'avoir mis à l'honneur aujourd'hui, ici même, Pierre Rabhi. Je serai très fière d'avoir à ma portée un média comme la radio pour que sa parole arrive jusqu'à vous. Pierre Rabhi, vous êtes agriculteur, philosophe, penseur français, écrivain d'origine algérienne. On va bien sûr revenir sur votre parcours atypique, mais est-ce que ce n'est pas difficile d'être porteur d'espoir par les temps qui courent ?
Oui, ça l'est. C'est-à-dire que c'est en même temps ce qui nous nourrit, ce qui nous maintient, ce qui nous donne sens à notre vie. Mais en même temps, évidemment, quand on observe le monde tel qu'il est, on se demande si on n'est pas impuissant finalement à le changer. Et parfois, les événements sont tellement surdimensionnés par rapport à nos capacités qu'on aurait presque tendance à baisser les bras. Et là, ce serait dangereux. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, nous faisons le possible et Dieu, s'il existe, fera l'impossible. Parce que c'est une situation qui est d'une telle complexité, d'une ampleur telle qu'on se sent évidemment, comme je l'ai dit, assez limité. Néanmoins, je crois à une chose, c'est que de toute façon, il faudra bien que l'humanité, plutôt que de continuer, disons, à tergiverser, à aller vers des digressions, il faudra bien qu'elle réfléchisse profondément à son propre destin et qu'elle le raisonne non pas en termes encore d'individualisme, de compétition, de guerre économique mondiale, de guerre tout court, etc., mais qu'elle le raisonne en termes de destin collectif. Et à partir du moment où on est dans cette idée du destin collectif, ça nous amène à dire rassemblons les consciences et que ces consciences convergent les unes vers les autres et que l'on puisse poser la problématique de notre avenir commun.
Alors, jamais cette problématique a été aussi proche de nous. On sera bientôt 9 milliards sur Terre et il va falloir augmenter la production agricole de 70%. Forcément, ça vous parle, quoi.
Disons que ce n'est pas en termes d'augmentation, c'est en termes, en fait, on ne peut pas dire que la planète Terre soit démunie. Il y a sur la planète Terre de quoi nourrir très largement chaque être humain. Seulement, on a falsifié en quelque sorte le scénario. Le scénario qui était chaque peuple se nourrit, trouve dans son terroir et dans son territoire ce qui lui est nécessaire pour sa survie. Tout cela a été, et je peux en témoigner puisque je travaille beaucoup en Afrique, a été en quelque sorte relégué, mis de côté pour finalement faire rentrer l'agriculture par la voie industrielle et la voie du profit absolu. Et donc à partir de ce moment-là, on ne peut plus raisonner, on ne peut plus appréhender la question alimentaire sur la base qui devrait être la sienne, c'est-à-dire que les peuples se nourrissent par eux-mêmes, répondent à leurs besoins légitimes là où ils sont. Mais la nourriture est en quelque sorte de plus en plus confisquée. Il y a une espèce de hold-up sur la nourriture pour en faire du profit. Et donc à partir de ce moment-là, on est dans un scénario qui évidemment ne prend pas en compte le fait que l'humanité peut parfaitement sur cette planète se suffire. Quand on parle par exemple de l'Afrique, eh bien, on dit là, souvent ce qui résonne immédiatement dans la conscience, dans le schéma, l'Afrique serait pauvre. Pas du tout. L'Afrique est immensément riche.
Elle a une terre très riche.
La terre, il y a tout, il y a même ces richesses inutiles que sont les diamants et le reste. Et elle a tout ce qu'il faut. Elle fait à peu près une superficie de 10 fois l'Inde. Hein. Vous pouvez regarder presque 10 fois la superficie de l'Inde avec seulement 800 à 900 millions d'individus. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore atteint le milliard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un continent si riche en terre, en eau, en fleuves? Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il y a en Afrique? Et pourquoi c'est là que sont les foyers de la misère et les foyers, finalement, de la pauvreté extrême?
On les fait cultiver pour la productivité.
Alors, évidemment, dès lors qu'une communauté humaine qui répond à ses besoins directs et de survie, elle est connectée à la loi du marché, c'est-à-dire à la loi de la production et la loi du marché, il arrive ce qui est arrivé en Afrique, c'est-à-dire beaucoup de paysans ont été mobilisés à produire des produits exportables. On leur a demandé on les a endoctrinés à le faire avec des engrais chimiques. Des engrais chimiques, il faut à peu près presque 3 tonnes de pétrole pour faire une tonne d'engrais. Et le pétrole étant indexé sur le dollar, le paysan pauvre est connecté, disons, à cette loi-là de l'investissement et disons en engrais et en fertilisants artificiels. Et puis ensuite, le coton ou quel que soit le produit qu'il va réaliser, va lui subir la loi du marché de l'offre et de la demande avec la concurrence internationale.
Alors, on va y revenir, bien sûr, parce que l'Afrique, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Mais Pierre Rabhi, pour revenir à vous, vous avez une double qualification et je crois que vous avez l'exclusivité pratiquement dans ce domaine-là. Vous êtes agriculteur et philosophe, penseur français. C'est fou.
Oui, disons que ma philosophie s'est construite sur ma rébellion. Parce que beaucoup d'amis, de gens savent que je suis né dans le sud de l'Algérie, double culture. J'ai travaillé à Paris comme OS, ouvrier spécialisé. Mais parallèlement, disons, dans cet itinéraire, il se trouve que j'ai été amené très, très tôt à m'intéresser à des choses, disons, graves, et qui me paraissaient graves, sérieuse, etc., la fréquentation des philosophes, etc. Ce qui m'a amené finalement à me questionner sur notre modèle de société et en quoi consiste ce paradigme nouveau qui est fondé sur la combustion énergétique, sur la thermodynamique, et puis essentiellement sur le profit financier. Donc à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que ce paradigme ne pouvait pas avoir d'avenir. D'abord, il crée de l'injustice, des disparités, il est inhumain. Et ensuite, la planète merveilleuse sur laquelle nous vivons et qui est absolument splendide, un véritable bijou, né de toutes les improbabilités, est perçue comme un gisement de ressources qu'il faut. On a une vision minière sur notre planète au lieu d'avoir une vision qui serait, respectons-la, elle est tellement belle qu'il faut au contraire en prendre soin. Et c'est un privilège que nous ayons cette petite... entité perdue dans un immense désert sidéral et astral, lequel lui-même est perdu dans les galaxies, etc. Et puis on revient à cette toute petite entité de rien du tout, mais qui, dans laquelle il y a la vie et dans laquelle il y a la possibilité de jubiler, d'être heureux. Ce privilège qui est accordé à une espèce qu'on appelle l'humanité.
Mais cet optimisme que vous avez, il n'est jamais bouleversé ou bousculé? Vous ne dites jamais à un moment donné, vous ne baissez jamais les bras?
Non, je ne baisserai jamais les bras.
Alors qu'est-ce qui vous fait ne pas baisser les bras?
Parce que je crois à la vie, parce que je pense que il ne faut jamais baisser les bras dans le sens où, à ce moment-là, on souscrit à l'échec et au désastre. Et je ne veux pas souscrire à cela. Je pense que la vie est magnifique et que c'est nous qui sommes décalés par rapport à ce qui nous est offert. Et donc, finalement, bon, évidemment, je suis engagé dans beaucoup de choses. Beaucoup de gens le savent, combien je suis engagé et chargé. Mais néanmoins, il y a un moment où on se dit, moi, je veux être cohérent avec moi-même. C'est-à-dire, il y a une formule de Mozart qui me plaît beaucoup, qui disait, moi, je suis vulgaire, mais jamais ma musique. C'est-à-dire qu'à un moment, on est au service de valeurs qui nous paraissent les valeurs transcendantes, transmissibles à l'ensemble du genre humain. Mm-hmm. Et celle-là, je ne transige pas là-dessus. Je ne prétends pas... On est dans une situation où on se dit finalement on fait le possible et Dieu fera l'impossible s'il existe, et parce que nous sommes dans les limites. Mais à côté de cela, évidemment, et ce qui est surtout fondamental, c'est qu'une conscience qui a pris conscience, enfin j'espère avoir pris conscience, j'ai aucune prétention à contrôler le fait que j'ai vraiment pris conscience, donc je reste évidemment dans une forme d'humilité par rapport à tout
mais
cela.
Mais vos actions le prouvent quand même,
et puis voilà, c'est ce qui me prouve que le chemin est juste, c'est les autres, c'est pas tellement moi, c'est le témoignage des autres qui me disent ce que tu fais est porteur de fruits. Donc, et ça, non seulement ça m'honore, mais en même temps, ça m'encourage. Et je me dis, je veux être simplement cohérent avec moi-même.
Alors, il y a quelques années, vous avez fait une rencontre, c'est celle avec Nicolas Hulot. Vous avez même publié un livre avec lui en 2005, Graines de possible. J'ai contacté Nicolas Hulot parce que j'avais envie qu'il nous parle de vous, Pierre Rabhi. Écoutez-le.
Pierre Rabhi, c'est un humaniste par excellence. Et sans aucune incohérence. Et quand on a la chance, comme moi, parce que je considère que c'est une vraie chance, et d'ailleurs, c'est quelque part, je dis souvent que dans mon engagement, parfois c'est désespérant, mais en retour, on est payé d'une chose, c'est que ça fait converger vers vous des êtres rares. Et Pierre Rabhi est un être rare, comme Théodore Monod était un être rare. Mmh. Et quand on a la chance de pouvoir dialoguer, et quand je dis dialoguer, en fait, le silence est la meilleure attitude parce qu'il faut se nourrir des expériences et des visions. C'est un visionnaire, c'est un philosophe. Voilà, vous sentez mon enthousiasme, mais parce que j'ai presque une fierté que des hommes comme ça m'accordent un peu de leur temps, parce que je me sens très proche, évidemment, et en même temps très loin, parce qu'ils sont tellement remarquables.
Oui, je le comprends. Comment est-ce que vous êtes rencontré, Nicolas Hulot, avec Pierre Rabhi?
Pendant un temps, beaucoup de gens me parlaient de Pierre Rabhi. Est-ce que tu as lu Paroles de terre? Est-ce que tu as lu ceci? Est-ce que... Bon. Et très sincèrement, à l'époque, je ne le connaissais pas. Mais il y avait une espèce de redondance, comme ça, en permanence, on me parlait de lui. Bon. Et puis, comme j'avais appris qu'il avait été candidat au présidentiel, enfin, en tout cas, qu'il avait fait une sorte de candidature, je me suis dit, tiens, c'est là qu'on voit qu'on peut être crétin. Je me suis dit, c'est quoi cet uberlu? Bon. Donc, c'est vraiment, moi qui combat les préjugés, c'était un préjugé totalement idiot. Et puis un matin, à l'époque j'habitais dans les Alpes de Haute-Provence, je vais toujours lire mon café dans un petit bar, mm-hmm. Et puis il y a quelqu'un qui se lève, qui me dit « je vous dérange pas, mais je vous laisse ceci ». Puis il me dépose un sac, et puis la personne s'en va, et j'ouvre le sac, et je vois deux livres de Pierre Rabhi. Je me dis quand même, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du prosélytisme, il me tourne autour. Mais enfin bon, je commence à parcourir l'ouvrage, et bien je ne l'ai pas refermé. Et quelques temps après, je l'ai appelé, et il m'a dit « venez ». Dans l'Ardèche. Je suis arrivé à 10h du matin chez lui, et à un moment, j'ai regardé ma montre, il était 18h, je n'avais pas vu le temps passer.
C'est sympa.
C'est vrai que vous avez publié ce livre ensemble en 2005, Graines de possible, où vous confrontez justement vos idées. Vous avez pourtant des points de vue qui divergent avec Nicolas Hulot.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où cette amitié s'est nouée, parce que Nicolas me touche profondément. C'est-à-dire qu'il y a, en dehors, disons, de l'homme médiatique qu'il est, qui essaye de porter un message, il n'échappe pas à des critiques, etc.
Bah, si je veux faire un peu d'humour, il se moquait de vous, entre guillemets, à l'époque, en 2002, pour les présidentielles, mais on n'en est pas loin, là.
Oui, il avait raison, parce qu'en fait, moi, c'était tout à fait... Tout d'un coup, mais je ne me suis pas présenté de mon propre truc. J'ai subi la pression, si on peut dire, d'amis, de gens qui étaient dans le parti de Wächter, etc., et qui disent, mais il faudrait que tu te présentes aux élections. J'ai dit, mais pourquoi ? À l'époque, il n'y avait pas encore la perspective d'Obama, mais je me suis dit, je ne vais pas devenir un Obama français.
C'est un chapitre que j'ai réservé pour nous tout à l'heure, ça, Pierre.
Et du coup, ce qui m'a paru évident, c'est qu'il fallait quand même que nous fassions quelque chose qui mette au centre et au cœur de nos préoccupations l'urgence écologique et humaine. Et à partir de là, je me suis dit, c'est peut-être le seul mobile qui me pousserait à me présenter, c'est de profiter justement de cette écoute nationale ou de ce débat national pour mettre en avant ce qui me paraît essentiel et absolument transcendant tout le reste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que l'humanité se pose des questions sur elle-même, sur son destin, sur la continuité de son histoire et sur sa responsabilité à l'égard de la vie.
Pierre Rabhi, on va continuer ensemble, mais si vous voulez bien, on va faire une pause. Le mercredi 16 février, France 2 diffusera un téléfilm de Jean-Daniel Vérague intitulé « La femme qui pleure au chapeau rouge » et dans lequel Thierry Frémont incarnera Pablo Picasso. L'histoire, eh bien, c'est celle de la passion consommée entre Dora Maar, talentueuse photographe, et Pablo Picasso. L'occasion pour nous donc de revenir dessus avec Thierry Frémont. Bonjour Thierry. Alors justement, comment est représenté Pablo Picasso dans ce téléfilm ?
La force de ce film, c'est qu'on le montre sous un jour un peu nouveau. C'est que les gens ont comme image de Picasso un homme méditerranéen, à la couronne argentée, souriant, les bras ouverts, sympathique, séduisant, surréaliste, ce qu'il est. Mais en plus de ça, c'est ce qu'on découvre dans ce film, c'est aussi quelqu'un qui était très 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 difficile à vivre, qui avait un ego surdimensionné. Comme le dit Françoise Gillot dans son livre, avec Picasso, fallait jamais baisser la garde, parce que à partir du moment où on baissait la garde, vous rentrez dedans et il aimait vous cogner, que ce soit avec ses amis ou avec ses femmes. Donc c'était quelqu'un qui était aussi parfois un peu caractériel, qui avait des vraies humeurs. Surtout qu'il y avait un problème, c'est pas un problème pour celle qui partageait sa vie, c'est qu'il aime beaucoup les femmes. Et surtout, il ne sait pas arrêter les histoires. Donc ça l'amène parfois à vivre avec plusieurs femmes à la fois. Mais en même temps, moi, ce que j'ai pu en comprendre, je crois, c'est quelqu'un qui a tout le temps été angoissé par la mort. Il déteste la mort, Picasso. Et je crois, comme tous les gens traumatisés par la mort ou qui fuient cette idée, il veut rester jeune le plus longtemps possible. Alors comment rester jeune ? Ben, comment rester jeune, c'est d'abord rentrer dans l'histoire de la peinture, en bousculant la peinture, en la révolutionnant. Et après, comment rester jeune, comment garder un sentiment de jeunesse, et ben, c'est aussi de rester dans un sentiment amoureux actif.
Alors justement, dans le film, c'est l'histoire d'amour avec Dora Maar, cette photographe très talentueuse qui est interprétée par Amira Kazar. On la voit souffrir terriblement, hein, d'ailleurs, parce que c'est l'image un peu qu'il avait d'elle, cette image de femme qui souffre.
Quand on comprend la peinture de Picasso, on comprend que c'est un carnet de bord. Alors c'est vrai qu'au début, il la peint sublimement belle, parce qu'il est très amoureux d'elle. C'est la première fois qu'il tombe sur une femme qui est vraiment une intellectuelle, une surréaliste, une artiste, elle aussi, parce que jusqu'à présent, il avait eu des femmes plus simples, pas aussi cultivées, et que, surtout qui ne lui offraient pas autant de résistance et autant de ping-pong dans un match. Et là, d'un coup, il tombe sur une femme qui est à sa hauteur, et plus ça va, plus son sentiment, malheureusement, s'étiole. Plus il la déstructure et plus il la voit en larmes. Et en même temps, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a compris qu'elle était peut-être profondément dépressive, puisqu'il l'a toujours vue comme ça, la peignant comme la femme qui pleure. C'est le titre du film, d'ailleurs, La femme qui pleure au chapeau rouge. Et ce qui, elle, ne comprend pas pourquoi il la voit comme ça. Et elle souffre énormément de ce travail de sape qu'il opère sur elle.
C'est aussi jouissif de jouer pour le cinéma que pour la télévision.
On tourne un peu plus vite, ça c'est sûr. Quoique maintenant, il y a aussi des films de cinéma qui se tournent très rapidement. Mais, donc ça tourne plus vite, mais pour ça, ça vous demande à vous d'être encore plus près pour effectivement être très efficace sur le plateau. De toute façon, sur un plateau de cinéma ou sur un plateau de télé, on n'a pas le temps de chercher. Il faut donner, il faut se livrer. Moi, je n'y vois du coup pas tant de différence. Bien sûr que c'est souvent, parfois plus léché sur un plateau de cinéma. Et encore, là, je trouve que la qualité du téléfilm est formidable. Donc, la différence, elle est relative, en fait. Ça dépend des projets. Mais en tout cas, on voit qu'il peut y avoir de très beaux sujets faits à la télévision.
La femme qui pleure au chapeau rouge de Jean-Daniel Vérague sera diffusée le mercredi 16 février à 20h35 sur France 2 avec vous, Thierry, et Amira Kazar, entre autres.
Que j'adore.
Amira Kazar, qui, effectivement, est très convaincante dans le rôle de Dora Maar. Merci beaucoup, Thierry.
C'est moi.
Au revoir.
Au revoir.
My baby's a hero, no matter. chance me fait défaut. Regarde comme ça déchire nos douleurs, nos désirs.
Nos douleurs, nos désirs.
Et si tu ne me reconnais pas, te reconnais-tu lorsque tu vois ce que nous sommes devenus? Et si mon image dit tu ne peux y refléter la tienne, c'est que l'obscur de ton regard noircit notre lumière. Alors tous les soirs lorsque je chante, c'est pas moi, c'est les autres. Je me dis que c'est pas si simple que ça de reconnaître ses fautes. Le monde est ainsi fait, n'est-ce pas? Mais peut-il réellement se faire sans nous? Peut-il réellement se faire sans toi? C'est vrai ça, qu'est-il donc advenu? Pour qu'on finisse comme si nous étions étrangers. On a tellement pris appui sur nos vanités. Éternellement, Adam et Ève nous sommes. Les cœurs se brisent et lentement s'additionnent. Le monde est ainsi fait, n'est-ce pas? Mais peut-il réellement se faire sans nous? Peut-il réellement se faire sans toi?
Abdal Malik et Wallen, sa petite femme, Mon Amour, extrait justement de l'album Chapeau Rouge, dont France Inter est partenaire et c'est son deuxième single.
Je, elle est dimanche.
Pierre Rabhi, je soumets chaque dimanche à mes invités un questionnaire d'anticipation. Vous êtes prêts?
Oui, bien sûr.
Votre prochain voyage?
Prochain voyage, c'est la Roumanie. Où nous avons un projet agroécologique d'envergure, puisqu'il s'agit de 500 monastères orthodoxes qui veulent tous fonctionner, adopter ce qui a été fait en France au monastère de Solan, à côté d'Uzès, c'est-à-dire un site agroécologique global avec production de vin de qualité, etc. etc.
Et c'est une demande qui a été faite de leur part, je crois, hein,
auprès
de vous.
C'est de leur part, c'est le patriarche lui-même. Donc qui m'a honoré de sa confiance pour que nous puissions convertir tous ces monastères en écosites productifs.
Votre prochaine folie?
Folie, je suis fou en permanence, donc je n'ai pas de prochaine folie.
Parce pourquoi? Parce que c'est cette utopie qui est complètement folle chez vous, c'est quoi?
C'est vrai qu'on me perçoit plutôt comme un peu... Je dirais pas disjoncté quand même, mais quand même engagé dans des actions qui utopiques effectivement. Mais l'utopie est positive, c'est-à-dire que l'utopie, l'étymologie, c'est ce qui n'a, on peut dire, c'est ce qui n'a jamais été réalisé ou un non-lieu. Le non-lieu, c'est-à-dire là où la vie nous offre tous les possibles. C'est pour ça que heureusement qu'il y a de l'utopie, parce que sans utopie, il n'y aurait pas d'évolution de l'histoire.
Votre prochain achat?
Je ne sais pas trop. Je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous achetez,
prochain
Pierre
achat, Je vois pas trop. Des piles pour mon Walkman.
Quand même, vous avez un Walkman.
J'ai un petit Walkman.
À cassette.
À vieille cassette, oui.
Ah, c'est
énorme. Des cassettes qui ne fonctionnent plus maintenant, puisque c'est remplacé beaucoup par les...
Discman.
Par les,
et maintenant, les...
Par les nouveaux
trucs. Ouais.
Mais j'ai des cassettes auxquelles je suis très attaché, de choses très intéressantes et importantes. Et puis que, voilà.
Et qu'est-ce que vous écoutez dans votre collector Walkman?
Alors, c'est vraiment les choses qui me sortent de la réalité. Ben, des contes.
Ah ouais.
Les contes, oui. J'aime bien les choses qui nous extraient finalement, qui nous font rêver, qui nous font sortir de ce monde pratico-pratique si pesant et dans lequel j'aime beaucoup, beaucoup les contes.
Vous savez que c'est collector, hein, Walkman, Pierre.
Collector, c'est-à-dire
oui. Ça veut dire que je pense, en fait, maintenant que c'est des collections illimitées qui coûtent beaucoup, beaucoup d'argent. D'avoir un Walkman.
Ah oui.
Ouais, c'est vintage si vous préférez.
Je le revendrai comme objet de collection.
Appartenant à Pierre Rabhi.
Je vais gagner énormément d'argent avec.
Oui. Votre prochaine révolte.
Il n'y a pas de prochaine révolte puisque je le suis en permanence, mais c'est une révolte pacifique. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout de la culture du point levé, des barricades et tout le reste. Je suis un révolté depuis 50 ans, puisque à partir du moment où j'ai choisi de vivre autrement, ça a été une démarche insurrectionnelle. C'est une forme d'insurrection et de rébellion. Mais cette rébellion s'accompagne évidemment d'une autre puissance, qui est celle de la puissance de la paix et de la non-violence.
Votre prochain parti politique?
Je n'en ai pas. Parti politique, pour moi, le seul parti qui compte, c'est la vie elle-même, quoi. C'est le parti de la vie. Et après, l'humanité s'amuse avec des éléments subalternes. Mais aujourd'hui, la seule politique qui m'intéresse, c'est la politique de la vie elle-même. Et nous l'avons tellement négligée que nous risquons de le payer très cher.
Quel regard vous portez aujourd'hui sur la présidence française ou même celle des États-Unis qui vous touche forcément, celle de Barack Obama qui a réagi d'ailleurs récemment, notamment à propos de l'Égypte?
Barack Obama me touche parce que je crois vraiment, j'avais lu des éléments biographiques de cet homme. Bien au-delà de l'homme, je pense que c'est une belle conscience. Mmh. Voilà. Et son implication même sociale, bien avant une quelconque ambition politique, me fait dire que sa personnalité est une personnalité assez exceptionnelle. Mais je parle en termes de conscience. Je ne parle pas en termes d'individus, c'est-à-dire que tous les enrobages qu'on met autour, que les politiques se donnent, les looks, et toutes ces scénarios extrêmement complexes dans lesquels ils sont finalement pris comme dans un traquenard. Alors, je ne sais pas s'il faut les admirer ou les plaindre, mais c'est vrai que ce n'est pas facile de gérer le monde d'aujourd'hui. Parce que nous ne voulons pas renoncer au monde d'aujourd'hui. Et nous ne voulons pas changer de paradigme. Nous ne voulons pas mettre la vie avant tout. Et donc, forcément, le monde du business, de l'argent, dans lequel nous sommes empêtrés, fait que la politique n'est certainement pas facile à assumer.
Votre prochain péché mignon?
J'en fais tous les jours. Il y en a pas... Là aussi, je n'ai pas de prochain.
C'est quoi votre gourmandise à vous?
Ma gourmandise, le thé vert.
Ah oui.
Je ne peux pas me passer de thé vert. Mais c'est relié probablement à tout mon passé, parce que quand j'étais enfant, mon père nous était accessible au moment de la cérémonie du thé, c'est-à-dire où toute la famille est réunie. Et mon père, que je considérais un peu comme un démiurge, quoi, c'est-à-dire comme une divinité assez éloignée, mais sensible à nous. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un d'indifférent à nous, mais il tenait son rôle de patriarche, et donc assez lointain. Et au moment de la cérémonie du thé qui réunit toute la famille, à ce moment-là, notre père était accessible. Et je pense que j'ai gardé, à travers le thé vert, le thé de la famille, le thé à la menthe, j'ai gardé ce lien à ces instants magnifiques où mon père nous regardait directement et on pouvait lui parler, certes les yeux un peu baissés, mais on pouvait lui parler. C'était un homme admirable que j'ai adoré. Et voilà, je pense que tout ça est lié, le psycho, la réalité, tout ça. Nous sommes des êtres quand même de subjectivité. Et je pense que mon lien au thé vert, ce n'est pas seulement parce qu'on me dit que c'est une boisson intéressante, mais plutôt symboliquement, derrière tout cela, il y a beaucoup de choses de l'ordre subjectif et émotionnel.
C'était votre questionnaire d'anticipation, Pierre Rabhi. On va revenir, bien sûr, sur votre parcours, mais tout de suite, on va parler de l'anniversaire des 10 ans de la disparition de Charles Trenet, si vous voulez bien. Jacques Pessis, journaliste, écrivain, réalisateur, a publié pas moins de 3 ouvrages sur cet immense artiste du XXe siècle. Et il revient pour nous sur le parcours impressionnant de celui qu'on surnommait le fou chantant. Bonjour, Jacques Pessis.
Bonjour, Alexandra. Oui, moi, je fais partie, comme beaucoup de gens, des fans de Trenet. Et on avait un ami commun qui m'invite après un concert à Besançon à un dîner avec Charles Trenet. Et là, j'ai découvert un Trenet que personne ne connaissait, c'est-à-dire un Trenet joyeux, qui aime la vie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'un dîner, c'est 3 plats, beaucoup d'alcool et surtout des anecdotes passionnantes et passionnées. Et je n'ai jamais autant ri avec ce monsieur qui, à minuit et demi, il avait 78 ans, et a dit « bon ben voilà, je vais me coucher rapidement ». Et puis à 9h du matin, il nous engueulait parce qu'on partait déjà.
C'est bien que vous disiez ça parce que, en fait, Trenet était un homme très solitaire, presque toujours injoignable. Vous dites que c'était un ours qui voyait qui il voulait, quand il voulait. Comment vous expliquez cet isolement ?
Écoutez, il disait « la solitude, c'est mon luxe ». Il a toujours vécu seul, comme beaucoup de poètes, et il n'avait pas de temps à perdre avec ceux qui ne l'intéressaient pas. Alors c'est pour ça que quelquefois, elle a eu une très mauvaise réputation. Il voulait profiter au maximum de la vie. Et je pense que c'est lié à son enfance, où il a passé 2 années au pensionnat parce que ses parents s'étaient séparés, et ces 2 années l'ont marqué à vie. Et il a dit « ensuite j'aurai toute ma vie pour vivre mon enfance ».
Qu'est-ce qui vous fascine tout particulièrement chez Charles Trenet ? Parce que vous avez quand même écrit 3 ouvrages sur lui.
Oui, c'était un homme d'exception parce qu'au-delà du poète, c'était ce que j'appelle un philosophe du bonheur. C'est-à-dire qu'il avait compris que quand on a rêvé sa vie, il faut vivre son rêve. Mais surtout, je n'ai jamais rencontré un homme aussi cultivé, aussi intelligent. Il a connu la terre entière, il a connu Cocteau, il a connu Mistinguett, mais il a connu aussi Bergson, Einstein, Laurel et Hardy, John Crawford, Charlie Chaplin. Et quand cet homme vous parlait de tous ces monstres sacrés, c'était des moments fabuleux parce qu'il avait le souvenir d'anecdotes drôlissimes.
Il faut rappeler qu'il est né le 18 mai 1913, d'où ses connaissances aussi. Charles Trenet a été accusé d'avoir chanté pour les Allemands. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous rapportez pourtant qu'il se promettait de ne jamais se produire devant les uniformes verts de gris. Comment s'en est-il défendu ?
Écoutez, d'abord, il a été accusé de tout, mais comme il se foutait de tout, il n'a jamais répondu. Alors les Allemands, effectivement, ont voulu qu'il chante à Berlin. Il a essayé d'y échapper. Pour les prisonniers français, il a réussi une fois, mais pas une seconde fois. Et surtout, aux Folies Bergères, il a été engagé pour chanter, à condition qu'il n'y ait pas d'uniforme allemand dans la salle. Et le premier jour où il arrive, il y a des uniformes allemands dans la salle. Et il s'arrange pendant 3 jours pour arriver à la dernière minute, pour entrer en scène au moment où on s'y attend le moins, ce qui gâche le spectacle et provoque des insultes du public. Donc au bout de 3 jours, Paul Verval, le directeur des Folies Bergères, a compris et lui a rendu son contrat. Et pendant la guerre, il a chanté beaucoup en Belgique, en Suisse, il a tourné des films en prétextant que les plateaux de cinéma étaient mieux chauffés que les trains.
D'ailleurs, en parlant de cinéma, il a commencé une carrière très prometteuse. Pourquoi s'est-il arrêté soudainement ?
Parce que ça ne l'intéressait pas. À Hollywood, quand il s'est trouvé à Los Angeles où il a chanté, on lui a proposé un contrat de 7 ans, mais un contrat mirifique. Mm-hmm. Ça ne l'intéressait pas et il disait que Hollywood, pour lui, c'était un cimetière pour chiens. Il parlait des cabots, bien sûr, qui étaient les stars.
Comme l'intitulé de votre dernier chapitre, Jacques Pessis, je vous pose la question, que reste-t-il de Charles Trenet ?
Alors, c'est pas toujours facile de faire parler de lui parce qu'il est mort vieux, riche, il n'avait pas de maladie grave, donc il n'y a pas de légende, comme l'on dit. Mais il reste des chansons qui resteront bien au-delà des siècles, comme il le dit dans l'âme des poètes. Si Brassens, si Brel, si Montand ont été des disciples de Trenet, c'est qu'il a inventé un genre qui est toujours parmi nous. Et aujourd'hui, je le constate, la jeune génération se recommande de ce que Trenet a inventé. Donc il reste ses couplets, il reste ce rythme et il reste cette invention.
Merci beaucoup Jacques Pessis. Je rappelle le titre de votre 3e ouvrage, Trenet, le philosophe du bonheur, aux éditions L'Archipel. Merci.
Avec un J comme joie. Merci Alexandra.
Merci à vous. Alors, en parlant de cinéma, Pierre Rabhi, vous avez en 2010 participé au film de Colin Serrault qui s'appelait « Solutions locales pour un désordre global ». C'était un documentaire qui mettait en avant les solutions agricoles pour tenter de rétablir notre futur. Et vous étiez l'un des protagonistes de ce documentaire film dans votre cuisine. Ça a été une expérience pour vous ?
Oui, bien sûr, parce que, disons, les choses commencent évidemment par, par une relation d'esprit, de conscience et une relation humaine avec Colline que j'aime énormément. Et c'est pas, disons, une révélation que de dire au départ, on s'est rapproché avec Colline parce que elle m'a toujours marqué. Elle a toujours marqué un intérêt pour mon itinéraire et ma démarche, quoi. Et de là, bon, ça a été le lien avec cette organisation que nous avons créée, qui s'appelle Colibri, Mouvement pour la Terre et l'Humanisme. Et puis, petit à petit, est né le projet d'un film plus large que simplement concernant ma petite personne, et qui puisse permettre... donc, on l'a fait en connivence,
oui,
entre Colibri et Colline.
Et Colline Serrault.
Oui.
Si j'élargis un tout petit peu le sujet du cinéma, qu'est-ce que vous êtes allé voir ou qu'est-ce que vous avez vu dernièrement au cinéma ou chez vous qui vous a bouleversé ?
Je trouve qu'il y a trop de choses bouleversantes dans le monde. Alors j'ai une télévision à la maison.
Que vous n'aviez pas avant, vous l'avez à cause de vos petits-enfants ?
Non, c'est parce qu'à un certain moment, je me suis dit, voilà, pourquoi pas.
Ouais.
Pourquoi pas. Pendant longtemps, évidemment, j'étais... parce qu'il faut dire aussi que nous avons vécu 13 ans sans électricité.
Oui, et sans eau, presque.
À peine de l'eau, etc. Donc
on va le voir, ça, tout à l'heure, voilà, avec votre femme. Oui. Mais le cinéma, la télé.
Alors, la télé, j'en fais plutôt quelque chose qui me libère et me divertit que quelque chose qui me replonge dans les problèmes du monde. C'est pour ça que je n'insiste pas tellement à des débats qui seraient intéressants. Je suis un peu en surdose des malheurs du monde, du débat public. Je suis plongé dedans, évidemment, avec des implications très concrètes. Je ne suis pas quelqu'un qui est uniquement dans des débats, puisque j'agis, et j'organise.
Alors, qu'est-ce que vous regardez ?
Je
vous divertis.
Vous savez, un bon western, je suis très content avec un bon western. J'aime beaucoup Columbo. Columbo, l'avantage, c'est qu'on
sait... C'est vieux épisode, hein.
On sait quel est le coupable.
C'est ça. Quel est le tueur ?
Dès le départ. Après, on se dit, mais comment il va faire pour trouver le coupable ? Et puis voilà, pendant ce temps-là, on est ailleurs que dans les problèmes du monde. C'est pour ça que je lis beaucoup de contes aussi. J'aime bien ce monde du rêve, ce monde irréel, qui nous délivre à un moment de ce monde tellement disons concret, dans cette concrétude, comme on dit, qui est souvent dramatique parfois.
Ça vous emmène ailleurs.
Où le meilleur et le pire se mélangent, et parfois on a l'impression que le pire est supérieur au meilleur. Donc voilà. Et puis il y a aussi le fait que dans les débats, on est simplement spectateur et qu'on ne peut pas intervenir. Et donc, pour moi, c'est quand je ne suis pas d'accord, je bouillonne et ça me fait plus de mal qu'autre chose. Donc, je préfère regarder des choses. Voilà.
Vaut mieux un bon Columbo.
Voilà.
Vous êtes sur France Inter. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis en compagnie de Pierre Rabhi. Et puisqu'on parlait des 10 ans de la disparition de Charles Trenet, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre un petit jardin extraordinaire.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnait des primevères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distinction, maman, dans ce jardin extraordinaire. Je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans, qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi. La douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
Oh, Charles Trenet, qui nous donne le sourire avec Pierre Rabhi. Alors j'espère que vous aussi, en ce dimanche ensoleillé ou pas, le jardin extraordinaire. Pierre Rabhi, je sais que vous allez avoir l'impression de radoter un petit peu parce qu'on va parler de votre enfance cette fois-ci. Je dis à nos auditeurs que vous êtes né en 38 à Kenatsa, près de Béchar. C'est une oasis dans le sud de l'Algérie, dans une famille musulmane. Votre mère meurt alors que vous êtes âgé de 4 ans. Et puis très vite, votre père, qui était forgeron, vous confie à une famille de Français. Ça, c'est quand même un premier déchirement.
Oui, oui, ça a été une rupture, quoi, très, très grave. Enfin, très, très sérieuse. Je pense que je ne m'en suis pas guéri. Je pense pas qu'on arrive à se guérir de frustration aussi énorme d'un enfant qui, évidemment, au moment où il a besoin de toute la tendresse, de cette transmission de la vie par la tendresse, et quand il en est frustré, évidemment, je pense que ça nous poursuit toute notre vie. C'est pas forcément obsessionnel d'une façon directe et tangible, mais probablement dans l'inconscient profond, ces blessures restent.
Et puis il y a un deuxième déchirement, c'est que votre famille, c'est l'islam, et votre famille d'adoption, c'est le christianisme. Donc forcément, à un moment donné, vous êtes entre deux chaises, quoi.
Oui, et en plus, il n'y a pas beaucoup de convergence, enfin à mon avis, il n'y a pas énormément de convergence entre l'islam et le christianisme, non. Puisque quand on prend, disons, le dogme fondamental ou la doctrine en tant que telle, cette doctrine, évidemment, pour ne citer qu'une chose, l'islam, par exemple, reconnaît Jésus, ce que nous appelons Jésus, mais en aucun cas, il ne l'a divinisé. Et le Dieu unique reste absolu. Donc, il n'y a pas d'autre divinité que Dieu unique. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous avez des divergences dogmatiques qui font que c'est très difficile de concilier les deux. Alors, bah oui. Il y a des points de conciliation, mais il y a surtout beaucoup de points de divergence.
Alors, en plus, votre père, à un moment donné, vous met à la porte parce que vous êtes donc au sein de cette famille qui prêche pour le christianisme. Et à un moment donné, c'est cette famille qui prêche le christianisme qui vous met à la porte parce que vous faites une boutade sur De Gaulle.
En fait, mon père naturel ne m'a pas mis à la porte. Il m'a confié à ces Européens pour dire, essayer de lui donner les moyens d'avoir une situation, disons, normale ou une situation, disons, confortable dans ce monde par l'instruction.
Mais a-t-il accepté que vous soyez dans une famille qui, qui prêche le christianisme, entre guillemets.
Non, c'est lui-même qui m'y a mis, mais, avec la, mais en mettant une condition, c'est qu'on ne devait pas du tout, ma famille d'adoption ne devait pas m'amener, disons, me convertir ou m'amener à changer de religion. Je devais rester un bon musulman.
Et donc, forcément, ça ne s'est pas passé comme ça.
Ben, c'est vrai que ce n'est pas ma famille qui a fait pression. C'est-à-dire qu'au cours de mes interrogations personnelles, et notamment mes interrogations métaphysiques sur l'islam, le christianisme, le judaïsme, enfin tout, et puis toutes les philosophies, parce que j'ai dévoré des bouquins et des bouquins de philosophie. Mon grand copain, c'est Socrate. Enfin, bon. Et donc, dans ces questionnements, j'ai été vraiment très touché par la personnalité de Jésus-Christ, de Jésus, quoi. Et en décryptant, en essayant de comprendre et en me mettant dans, dans l'ambiance dans laquelle il se trouvait lui, dans ce contexte judaïque, dans cette tradition lourde et que cet homme Dieu ou cet homme tout court qui remet en question tant de choses pour ramener à l'essentiel m'a énormément touché et qui surtout mettait l'amour comme la puissance. La puissance, et c'est vrai que l'amour, c'est la puissance absolue. Il n'y a pas plus puissant que l'amour. Évidemment, ce n'est pas l'amour conditionnel. Je t'aime, mais à condition que, etc. C'est un amour dans son acception la plus radicale et totale, qui est une énergie qu'un être humain peut générer, peut produire, et qui lui fait transcender la réalité pour n'être que dans le don de soi et dans la compréhension et dans cette puissance qui, en fait, peut transformer le monde et l'humanité tout entière. C'est ce qui m'a touché énormément dans ce monsieur Jésus-Christ.
Alors, j'imagine qu'il faut avoir la foi et beaucoup d'amour, parce que quand vous décidez d'acheter ce petit bout de parcelle en Ardèche, vous demandez à emprunter 15 000 francs à une banque, on vous le refuse plus ou moins. Là, vous êtes à ce moment-là avec votre femme. Vous allez y vivre pendant, c'est vrai, 13, 15 ans, sans eau ni électricité.
Il faut le faire. Une dizaine d'années, oui. C'est-à-dire que j'étais plutôt à ce qu'on appelle le confort. Certains disent le confort, c'est, je ne sais pas, être bien dans un bon fauteuil, être bien, etc. Moi, ce n'est pas du tout ce confort-là que je cherchais. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui relevait de... Est-ce que nous pouvons nous rapprocher de la nature et jouir des biens de la nature? Et quand nous avons trouvé ce lieu, il répondait vraiment à cette aspiration. Un lieu magnifique, 17 clochers, on voit 17 clochers, on voit une terre aride, rocailleuse, mais comme lunaire.
Ouais.
Et un horizon magnifique, dégagé de tous les côtés. Donc cette situation, disons, d'un lieu aussi savoureux en termes... pour le corps, pour l'âme, pour sa beauté, pour son silence, pour sa tranquillité, etc., ont été évidemment des critères extrêmement importants dans le choix que nous avons fait.
Alors, l'émission touche bientôt à sa fin. Et la dernière question, je vais la laisser à Nicolas Hulot dans un tout petit instant.
To
Dado sur France Inter avec Too Insistent. L'album justement sortira le 7 mars. Je suis en compagnie de Pierre Rabhi et je vous ai dit, Pierre, que je réservais la dernière question de cette émission à Nicolas Hulot. Alors, je lui laisse le soin de la poser.
Ah, comment il voit l'avenir?
C'est pas facile. Hein.
Oui. Ben, disons qu'effectivement, c'est pas dans le marc de café. Mais je pense que le meilleur et le pire se côtoient. Et parfois, on a l'impression que le pire domine le meilleur. Aujourd'hui, l'avenir est entre les mains de l'âme et de la conscience de l'humanité. Et nous n'avons plus le loisir de nous tromper. Parce que les enjeux qui sont mis en place aujourd'hui peuvent être d'une telle ampleur que ça peut nous entraîner véritablement vers le désastre, et vraiment vers le désastre. Donc aujourd'hui, l'humanité est interpellée pour bien se rendre compte qu'elle a à donner à la vie son vrai sens. Et le sens de la vie, ce n'est pas de produire, consommer, consommer pour produire encore, et puis produire de plus en plus d'argent, etc. Aujourd'hui, nous sommes sur cette planète pour être heureux. Il y a tous les moyens pour l'être et je crois que la grande question aujourd'hui, sommes-nous capables d'une civilisation de la modération et qui permettrait finalement à tous nos autres potentialités de s'épanouir et non pas d'être inhibés comme ça l'est aujourd'hui.
Merci beaucoup Pierre Rabhi pour avoir accepté mon invitation. Vous pouvez me promettre une chose? Vous voulez bien revenir avec votre Walkman la fois prochaine?
Merci. Oui, essayer de le retrouver déjà.
Oui. Merci Pierre, merci à toute l'équipe qui embellit Joël et Dimanche, Nadia Chougui, Lénora Krief, Maïté Adam à la réalisation, Olivier Daligo à la technique, Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, les amis, avec Isabelle Nanty. Mais en attendant, comme le dit Charles...
Joël et Dimanche.